Que pensez-vous du journal intime d'Eva Braun ?
Eh bien, je ne l'ai pas lu. Je ne veux pas m'abîmer les yeux à lire ça.
C'est un bouquin qui est paru en 1948.
Oui, oui, oui. Justement, j'étais à Saarbrücken quand il a paru. Et j'en ai entendu parler. Et j'ai entendu parler du procès intenté par le père d'Eva Braun, Otto Braun, contre ce livre. Et c'était un avocat, celui que Otto Braun a pris, un avocat habile et un avocat consciencieux. Il a fait des recherches dans les différentes bibliothèques et il a trouvé que, mot à mot ou presque, le fameux journal d'Eva Braun, qui contenait un tas immense de cochonneries, n'était rien autre que un journal des mémoires d'une marquise française du XVIIIe siècle, qui avait été conservée dans certaines librairies. Il a trouvé ce mémoire. Il a mis les deux en parallèle et trouve que c'était la même chose. En somme, les auteurs du livre soi-disant livre d'Eva Braun ont simplement copié les cochonneries sexuelles d'une marquise d'un siècle où tout le monde était plus ou moins corrompu, le 18e siècle. Et il a passé ça sous le nom d'Eva Braun. Les parents, connaissant leur fille, naturellement, en étaient indignés. Voilà comment on écrit l'histoire.
Ouais,
voilà comment on écrit l'histoire. Et on trouverait probablement des quantités d'autres choses, peut-être pas aussi choquantes que ça, mais enfin, du même style, si on cherchait bien. Il faudrait chercher. Toutes les fois qu'on a entre les mains un livre douteux, il faudrait trouver la source. Maintenant, le journal qui avait publié le livre d'Eva Braun, le livre sur Eva Braun, s'appelait « Bonjour », titre français et texte allemand. Il a été interdit naturellement. Il y a eu un procès. Il a reparu sous le nom de « Bonsoir ». C'est tout. Ouais. Tout ce que je peux dire.
D'accord. Vous vouliez dire tout à l'heure une anecdote ?
Non, je voulais dire, n'est-ce pas, que je ne crois pas du tout à un fanatisme anti-juif. Évidemment, il y a des juifs qui sont sans malice, qui ne sont pas dangereux. Tout le monde l'admet. Le Führer lui-même l'aurait admis. D'ailleurs, il disait qu'il y en avait un qui s'appelle Otto Weiniger. Et il dit ça, c'était un bon juif. Ce juif-là, il a étudié l'histoire de sa race. Il a trouvé comment, depuis le début de l'histoire, depuis l'Ancien Testament, sa race a toujours été un ferment de décomposition et il a fini par se suicider lui-même. Le Führer lui a dit que c'était un bon juif. Je comprends très bien ça. J'en ai rencontré une fois, qui était bon, insignifiant. C'était à Londres. Ça devait être en 1946. Il pleuvotait un petit peu. C'était à Oxford Street. J'étais dans Oxford Street. Et puis, il pleuvotait. Tout d'un coup, je sentis une belle fourrure qui se frottait à mes jambes. J'ai ramassé un beau chat. Un beau chat qui a ronronné. Et j'ai dit, mon pauvre minou, tu es perdu. Tu es perdu. Où sont tes maîtres ? Oh, mais c'est qu'il avait un collier. J'ai regardé le collier. Sur le collier, il y avait Einstein. Et puis une adresse. J'ai dit, il appartient à des juifs. Enfin, ça n'a pas une raison. Il a l'air bien nourri. Je vais voir qui c'est Einstein. Je l'ai porté moi-même. La distance n'est pas très grande, d'Oxford Street à Tottenham Court Road. Et j'ai trouvé une maison avec un escalier de bois. C'était au troisième, je suis monté avec le chat. J'ai vu là, Attends, on m'a ouvert la porte. Une grosse dindon. Le chat lui a sauté dans les bras. Alors elle a dit, oh mais vous êtes gentil, vous me ramenez mon minet. Très bien, venez prendre une tasse de thé. Moi, sachant ce que je suis, je ne voulais pas prendre une tasse de thé chez ces juifs. J'ai dit non, c'est vraiment pas la peine, je suis pas très pressé. Ben ce sera pour une autre fois, mais je ne pourrai pas m'arrêter ici. Enfin, je suis content que votre chat ait retrouvé ses maîtres. Il y avait au coin du feu un vieux juif d'Europe orientale, probablement, avec les bouclettes, là, les deux côtés du visage. Un juif orthodoxe, probablement. Un juif orthodoxe qui n'avait pas l'air de faire de politique. Voilà, j'ai ramené le chat. Et j'ai eu de la sympathie pour ces gens-là, qui étaient inoffensifs. Ou du moins, ils me semblaient inoffensifs. Je me suis dit, si tu les avais rencontrés en Allemagne à la grande époque, eh bien, je me suis dit, d'abord, c'est pas vrai. Tous les Juifs n'étaient pas en concentration. Il n'y a aucune raison pour qu'ils aient été en concentration, ceux-là. Ils ne faisaient pas de politique. Et puis, ils étaient Juifs, entendu. Enfin, si j'avais pu les aider à ce qu'ils n'aillent pas en concentration, certainement que je l'aurais fait. Je ne suis pas fanatique. Et je crois qu'aucun de nous, vraiment, n'est fanatique à la manière dont les Juifs le sont. Nous comprenons très bien les choses, enfin, nous savons mettre les choses, leur faire garder leurs proportions. Après tout, quand les Juifs en Israël, en 55, interdisent tout mariage entre eux et les non-Juifs, nous trouvons ça très bien. Pourquoi n'ont-ils pas, eux, trouvé très bien les lois raciales du Führer du 15 septembre 1935? Pourquoi n'ont-ils pas trouvé ça très bien? Elles étaient très généreuses, ces lois. Interdiction de mariage entre Ariens et non-Ariens. Non seulement arien et juif, mais arien et n'importe quel nom arien. Chinois, nègre, tout ce que vous voulez. Même japonais, naturellement. Nous pouvons être alliés sans nous marier. Si un juif veut mettre dans son jardin une perche et un drapeau du Reich, ça lui est interdit. Ce n'est pas son drapeau. Mais s'il veut mettre son drapeau à lui, qui sera le futur drapeau d'Israël, et si les voisins allemands élèvent des objections contre ça, s'ils élèvent leur propre drapeau et que les voisins ont une objection, eh bien le gouvernement prendra le côté des Juifs contre le voisin. Ils ont le droit d'avoir leur propre drapeau, ils sont considérés avec tolérance. Et on ne parle jamais de cette tolérance du Troisième Reich. On ne parle jamais de ça. On vous dit, ils ont les lois de Nuremberg, dès qu'elles ont été promulguées, ça a été un cri d'indignation dans le monde entier.
Ouais,
y compris la Calcutta, où j'étais en 1935. Oh, attente à la liberté humaine, attente à la, je ne sais pas quoi, la dignité de l'homme, tout ce que vous voulez. Quand en 55, les Juifs ont fait une loi tout à fait parallèle en Israël, il n'y a jamais eu un cri, personne n'a rien dit, on n'a pas parlé d'attentat à la liberté humaine, loin de là.
Vous aviez combien de chats en Inde?
J'en avais 35.
35 chats?
Et j'en nourrissais 100 pendant la famine. La famine de 1943. Il y avait une procession de chats au haut de l'escalier tournant qui me conduisait chez moi. Et ma bonne prenait 8 kilos de riz par jour et je ne sais pas combien de kilos de poisson. Nous les nourrissions. Et puis 10 chiens. Nous avions 10 chiens aussi. Nous nourrissions. Nous ne les avions pas dans la maison. Mais dans la maison, il y avait jusqu'à 35 chats. Ils ont fini par diminuer parce qu'il y a eu des épidémies de félins de Stempel. Je ne sais pas comment ça s'appelle en français. Une maladie des félins que les chats, qui attaquent les chats naturellement.
Et vous les connaissiez tous par cœur, est-ce qu'ils avaient tous un nom?
Ils n'avaient pas de nom.
Aucun nom.
Ils n'avaient pas de nom. Quand j'ai quitté l'Inde, je les ai donnés à un monsieur qui habitait chez nous au premier et qui était officier dans l'armée indienne, dans une caserne près de Calcutta, la caserne d'Alipur. Et il les a emmenés dans la caserne. C'est-à-dire pas dans la caserne, mais dans les cuisines. Il les a distribués dans les cuisines. Il paraît qu'il y avait un gaspillage effréné dans ces casernes. Que on donnait du bœuf, n'est-ce pas, à des hindous qui le rejetaient. On donnait du porc à des musulmans qui le rejetaient. Enfin, tout ça allait à la poubelle. Ou allait aux chats, à qui voulait le manger.
Ah bah ouais,
et que les chats, il paraît qu'ils étaient bien nourris là-bas.
Ils devaient être bien gras.
J'espère qu'ils l'étaient, je ne sais pas. Je ne les ai pas revus, je n'avais pas le droit d'y aller, c'était terrain militaire. Mais là, au moins, il y avait toujours des casernes, même après le départ des Anglais. Si je les avais mis dans un établissement anglais, bien après le départ des Anglais, l'établissement était n'est-ce pas, était aboli.
Bien sûr. Je voulais vous poser une autre question. Là.
Oui.
Toutes vos archives, vos manuscrits, si un jour il fallait les retrouver...
Chez Mademoiselle Diane.
C'est
tout, Mademoiselle Diane.
Tous vos papiers sont en Inde, quoi.
En Inde, oui. Tous mes papiers sont en Inde.
Vous les avez confiés à votre ami.
J'ai confié à mon ami qui est une des nôtres, enfin qui a nos idées.
Parce que plus tard, vos manuscrits, ça sera considéré comme des originaux. De toute façon, c'est des originaux. Et ça vaudra certainement une certaine valeur. Ça sera certainement recherché par nos camarades.
Mon ami va les rééditer. Il y a Madame Asmus qui lui envoie de l'argent. Elle va les rééditer. Elle m'a fait un papier que je dois signer devant notaire. Je l'ai signé, mais pas devant notaire. Mademoiselle Truchet, là, ce papier. Et Mademoiselle Truchet n'est pas venue, je ne sais pas ce qu'elle fait. Qu'est-ce qu'elle a fait de ces papiers? Il faut que je les signe devant notaire. Il faut qu'elle les fasse passer par le notaire. C'est des papiers de Mademoiselle Lydiane, oui. M'a envoyé. C'est justement ces papiers sont pour la réimpression de mes livres.
Ah, la réimpression des bouquins. Mais enfin, vous faites vraiment confiance à votre amie, là? Elle ne détruira pas?
Je n'ai pas, non, elle ne détruira pas, j'espère. Non.
Ce sera vraiment grave.
J'espère.
Et si on veut se procurer des bouquins, on peut lui écrire?
Mais oui, vous pouvez lui écrire pour les bouquins.
Oui.
Mais je ne dis pas qu'ils arriveront, parce qu'elle m'en a envoyé à moi des bouquins à Vurée et je ne les ai jamais reçus.
C'est bizarre parce qu'à chaque fois que vous m'avez envoyé des colis, moi je les ai toujours reçus. Hein.
Mais je ne comprends pas, je ne comprends pas.
C'est bizarre.
Je ne comprends pas.
À moins qu'elle ne les ait peut-être pas envoyés en recommandé.
Aussi, elle a certainement dû les recommander.
Mais par bateau peut-être, elle les a envoyés. Si c'est pas par bateau, ça met des mots.
Je ne sais pas, je ne sais pas. Il faudrait lui demander.
Il faudrait que je lui écrive.
Il faudrait lui écrire.
Enfin, tous vos manuscrits, tout
oui,
ça,
tout
c'est,
ça c'est là-bas.
Tout
est là-bas.
Alors si un jour on veut...
Tout est là-bas. Il faudrait ou aller là-bas, quelqu'un si vous avez l'occasion. Et le mieux, ça serait d'y aller par terre, par autobus. Ça ne coûte pas cher.
Ça fait une balade en plus.
Ça fait une balade.
Ça, peut visiter.
Ça ne coûte pas cher. Ouais. Je suis allé en autobus pour environ 150 marques.
150 marques, mais en quelle année aussi?
En 57.
Oui, en 57. C'est-à-dire que maintenant, il faut peut-être multiplier par 10.
Non, parce que tout de même. Tout de même. Vous savez, j'ai pris le transdésertique Damas-Bagdad, que je l'avais déjà pris une fois en 37. J'avais fait un voyage en Proche-Orient en 37 par ce transdésertique. En sens inverse, bien en sens là aussi. Et puis après Bagdad, j'ai fait la Perse, et puis le Baloutchistan. Je suis entré en Inde par le Baloutchistan. J'aimerais le faire encore. J'aimerais bien faire ce voyage encore maintenant. Ça me ferait pas peur. Seulement, ne pouvant pas me déplacer librement, ça serait plus difficile.
Non, monsieur, il faudrait que vous soyez accompagné.
Faudrait que je sois accompagné. Il faudrait que quelqu'un, n'est-ce pas, par exemple, quelqu'un qui voudrait faire ce voyage, m'accompagne. Je serais très contente.
Oui, organiser une expédition,
Très contente.
ce serait intéressant.
Mais je voudrais d'abord avoir un passeport indien. Parce que sans passeport indien, on me renverra par mon ambassade. Qu'elle soit grecque ou française. On me renverra par une ambassade si je n'ai pas un passeport indien.
Je voulais vous poser une autre question. C'était, est-ce que vous avez établi un testament?
Non, je n'ai pas fait de testament.
Et vous comptez pas en faire?
Je n'ai rien à laisser.
Ben si, il y a quelque chose de très très important, c'est justement tous vos manuscrits.
Ben oui, mes manuscrits, ils sont automatiquement chez Mademoiselle Vierne. Je lui ai dit qu'elle en dispose, qu'elle les réédite. Elle m'a dit qu'elle les rééditerait en Inde. Je n'y peux rien maintenant. J'avais d'abord demandé à Sundell, au Canada, qui se trouve maintenant aux États-Unis, de les rééditer. Il en a réédité un livre. Et puis les autres, il s'est arrêté. Alors quand j'ai vu ça, et que mon commandant m'a dit qu'elle pouvait le faire aux Indes des bien meilleurs marchés, j'ai dit, ben faites-le. Je n'y peux rien. Je n'y peux rien. Je ne peux pas me déplacer librement. C'est ça que je voudrais, moi.
Non, ce qui compte surtout, c'est que c'est enfin tous vos manuscrits ne soient pas dispersés
Non, j'espère
ou
bien que non.
détruits, c'est ça? Il faudrait
J'espère bien que non. Ça ne pourrait arriver que s'il y avait une révolution en Inde comme en Afghanistan.
pour ça qu'il faudrait, je ne sais pas, enfin moi, je serai à votre place, j'y songe.
Qu'est-ce que vous feriez à ma place? Les prendre ici? Qu'est-ce que j'en ferai ici?
Ouais, non, mais ou alors confier à un organisme
Il n'y a pas d'organisme en Inde?
en Allemagne non plus.
Hein?
En
En
Allemagne
Allemagne, c'est beaucoup plus dangereux qu'en Inde.
non. Et aux États-Unis.
Aux États-Unis, oui, les envoyer aux États-Unis, mais quand elle les a envoyés à Vuré, ils ne sont pas arrivés. Et s'ils n'arrivent pas?
Ouais, mais en y mettant toutes les chances de votre côté. La
Oui, mais
personne qui s'en
elle peut le
occupe,
faire.
elle
Vous
peut.
pouvez lui dire, vous pouvez lui dire si vous voulez qu'elle les envoie aux États-Unis, qu'elle en envoie le plus grand nombre possible aux États-Unis. Je veux bien. Savez-vous ce que j'ai fait? J'ai écrit aux États-Unis il y a quelques jours, quand j'ai reçu ce machin. Vous lisez l'anglais?
Non.
Non, dommage. Cet article il est magnifique. J'ai envoyé une lettre à Michael, une longue lettre de 10 pages. Et je lui ai dit que j'étais tout à fait d'accord avec lui pour son article. Il a besoin d'argent pour son mouvement aux États-Unis. Le mouvement est attaqué par le gouvernement fédéral. On lui demande des impôts, on lui demande ceci, on lui demande cela. Enfin, il a besoin d'argent, le mouvement. Je lui ai dit, si vous pouvez me payer le voyage, que j'aille aux États-Unis. Je ne suis pas valide de l'autre côté. Je marche avec difficulté, tout ce que vous voudrez, mais je peux parler. Si vous croyez que de me transporter ici et là et de me faire parler, vous acquériez des dollars, je suis prête à le faire. Si vous voulez, c'est une proposition que je lui ai faite. Et de là, je peux retourner en Inde ou ailleurs, n'importe où, ça m'est égal. Je n'en ai parlé à personne. Je vous le dis, si vous êtes le premier à qui je le dis. Je n'en ai pas dit, j'ai rien dit à Mlle Vierne même. Dans mes lettres, je lui ai écrit ce matin.
Enfin, moi, c'est manuscrit. Enfin, pour moi, c'est. Il y a environ 20 bouquins en tout que vous avez écrits avec les poèmes et
Ah
tout
oui.
ça. Ce
Oui, attention, attention. Il y en a chez Mademoiselle Vierne, Il n'y en a que là. Il y a une quantité seulement du dernier. Les autres, il y a longtemps qu'ils sont dispersés, qu'ils sont ou vendus ou donnés. Les éditions étaient petites. L'étang au lotus, elle en a un seul exemplaire.
Non, ce que je veux vous dire, moi, c'est le manuscrit, ce que vous avez écrit.
Le manuscrit, il est chez elle.
C'est tout chez
elle.
C'est ça qui est sacré. Enfin,
les manuscrits sont chez elle. Les manuscrits sont chez elle. Mais l'édition, la première édition imprimée, il y en a deux ou trois volumes de chaque. Et c'est tout. De Defiance, il y en a deux exemplaires. Pilgrimage, il y a deux exemplaires. Defiance, il y a deux. Lightning and the Sun, il y a deux exemplaires. Et puis on y voit. Golden Defiance, il y a deux exemplaires. Le livre sur les chats. Je voudrais tant qu'on le fasse réimprimer, celui-là. Le livre sur les chats, vous pouvez l'acquérir chez Mademoiselle Perret.
Mademoiselle Perret.
Vous pouvez lui demander si elle peut vous le donner. Dites-lui qu'elle vous le prête.
D'accord.
Qu'elle vous le prête seulement. Dites pas qu'elle vous le donne. Dites-lui qu'elle vous le prête. Et qu'est-ce qu'elle va en faire? Il y a un autre. Et Mademoiselle Brock.
Et c'est où?
Attendez, Mademoiselle Perret, c'est 15 boulevard des Brotteaux. Vous pouvez.
C'est à Lyon, ça?
C'est à Lyon, oui. Ah, oui. Mademoiselle Brock, c'est à Villeurbanne. Et il y a longtemps que j'en ai demandé un pour Mademoiselle Truchet, livre sur les chats, parce que Mademoiselle Truchet est un ami, lui, des bêtes. C'est tout. Et il y en a un autre, Joy of the Sun, Joie du Soleil. C'est un livre sur Akhenaton d'Égypte. Et puis, écrit et publié pour les jeunes, pour les enfants de 15 ans, 14-15 ans.
Mais celui-là est à. C'est Mademoiselle Ian qui l'a.
Il l'a aussi.
Mademoiselle Ian l'a. Vous pensez que si je lui écrivais, elle m'en enverrait un exemplaire de chaque?
Elle peut vous l'envoyer, mais vous n'êtes pas sûr qu'ils arrivent.
Non, mais pas... ça, je lui expliquerai comment il faut l'envoyer.
Mais quand elle n'a qu'un exemplaire, comment voulez-vous qu'elle vous l'envoie?
Non, mais.
Elle n'a qu'un exemplaire de chaque. Ah, ça.
Ah, mais elle les garde pour elle, alors.
Ah, oui, elle les garde pour elle, naturellement.
Ah, oui, bien sûr.
Si elle en a deux, elle peut en avoir un. Mais il faut qu'elle en ait deux pour le faire réimprimer.
Eh oui, bien sûr.
Et elle le fait réimprimer aux Alpes. Écrivez donc à Madame Asmus. Prenez l'adresse.
Allez-y, vous avez qu'à le dire.
Vous l'avez?
Non, mais dites-le.
À Madame Asmus, c'est I... 0 40 19.
0 40 19.
Viale Circe. C-I-R-C-E. C-E. Circe.
Circe, oui. Viale, comment ça s'écrit?
V-I-A-L-E. Viale. Ah, Viale Circe. Oui. 244.
244.
Non. 224, excusez-moi. 224 Viale Circe. À Terracina, T-E-R-A-C-I-N-A, Italie. Ah. Elle habite en Italie.
D'accord. Et là, on peut lui demander quelle...
Non. Là, vous lui demandez... Attendez. Vous lui demandez... Elle était en train de traduire Golden in the Furnace en allemand. Je ne sais pas si elle l'a traduit ou pas. Mais enfin, elle est en rapport avec Mademoiselle Hirn. Elle l'a vue, Mademoiselle Hirn est venue la voir et restée chez elle. Enfin, elle travaille. C'est en rapport avec Mademoiselle Hirn.
Et Mademoiselle Hirn, elle voyage beaucoup?
Non, elle ne voyage pas.
Ah, jamais?
Elle est employée à l'ambassade de France. C'est pour ça qu'elle ne veut pas me vendre chez elle.
Ah, oui.
L'ambassade de France lui a absolument interdit.
Comment elle...
Et elle a peur. Si elle contredit cette interdiction, si elle s'occupe trop de moi, elle a peur qu'un jour l'ambassade de France fasse une recherche chez elle.
D'accord.
Alors ça serait la catastrophe.
Mais alors, elle vient jamais en voyage en France?
Elle vient tous les 3 ans.
Ah oui.
Elle devrait venir maintenant. Elle devrait venir maintenant.
Ah bon, elle pourrait, est-ce qu'elle pourrait faire
je ne sais pas.
Quelques...
Ah, elle en apportera tant qu'elle voudra. Vous pouvez lui écrire comme ça.
Ah,
vous
oui.
pouvez lui dire, si vous n'avez jamais venu en France, apportez-moi tant et tant de bouquins.
D'accord.
Ça, vous pouvez lui dire.
Ok.
Et alors, ce que j'aimerais, mais je ne veux pas qu'elle me les envoie de là-bas, je voudrais le portrait de mon mari, le portrait du Führer que j'ai chez moi, que j'avais chez moi. Tout ça, je le voudrais, mais je ne voudrais pas qu'elle me le donne, si qu'elle me l'envoie, si ça se perd.
Oui, d'accord.
Je ne voudrais pas que ça se perde, surtout.
Entendu.
Et, attendez, ce que je voudrais, c'est moi-même y retourner.
Oui, ce serait le plus simple.
Ce serait le plus simple.
Et, ouais. Et de là-bas, après, on peut vraiment correspondre.
Mais de là-bas, ça serait assez facile.
Enfin, le principal, c'est que vous fassiez votre passeport indien.
Un passeport indien.
Voilà.
Un passeport indien.
Avec le passeport indien, vous êtes chez vous, hein.
Mais je suis chez moi.
Il n'y a plus de problème.
Il n'y a plus de problème, évidemment.
Et actuellement, alors qu'est-ce que vous savez que ça en est? Alors, vous avez écrit à l'ambassade.
J'ai écrit à l'ambassade, mon mari et un mari a répondu.
Rien répondu. Il y a combien de temps? Il y a longtemps?
Il y a, attendez-moi. J'étais encore à Vuray.
Oula, ouais.
Oui, c'est-à-dire, c'était à la fin de mon séjour de Vuray. Mmh. Je suis venu ici le 14 avril.
Mmh. Ouais, c'est ça. Ouais.
Hein? 14 avril, je suis venu ici.
Non, avant?
Non, 14 avril.
Peut-être que vous avez raison.
14 avril, je suis venu ici.
Ouais.
Je me rappelle, le 17, je suis venu dans cette chambre.
Oui, 14 avril, c'est marqué.
Oui, très bien.
Ouais.
Vous voyez, je sais que c'est le 14 avril. Eh bien, c'était un petit peu avant le 14 avril. 3 jours avant, peut-être. Je n'ai pas de réponse. S'il s'en réfère à Delhi, évidemment, il faut plus d'un mois. 14 avril, nous ne sommes pas encore le 14 mai. Je ne sais pas s'il faut que je réécrive ou non. Et alors, j'ai une amie anglaise, Muriel Gantry, qui habite l'Angleterre, qui a une maison à elle et un chat. Une anglaise qui est sans politique. Elle en est bête. Vous savez ce qu'elle vous connaît? Elle croyait que c'était Horst Wessel. Elle avait entendu le nom.
Oui.
Elle savait, elle se fiche de la politique complètement.
Mmh.
On peut lui dire à elle n'importe quoi. Elle croyait que c'était une marque de saucisson.
D'accord.
Alors ça vous dire.
Quoi?
C'est drôle. Là, on a la ligne Siegfried.
Oui.
Elle ne savait pas ce que c'était. Elle croyait que c'était quelque chose qui avait à faire avec les longitudes et les latitudes.
Ah bon?
Une ligne géographique. Elle est absolument apolitique.
Oui, je vois vraiment.
Mais alors,
même plus que ça.
Elle est intéressée à l'Antiquité.
Ah bon?
Elle est très intéressante. L'histoire de l'ancienne Crète, par exemple. Elle a écrit un livre, un roman, sur l'ancienne Crète, qui est très beau. Que Marie Renaud, qui est une grande romancière anglaise, a prisé. Qui s'est bien vendu. Bon, ben, ça va. Avec elle, je peux parler librement parce qu'elle s'en fiche. Elle aime les bêtes. Elle a une chatte. Elle a trouvé une chatte. Et la chatte est venue dans son jardin. Elle a fait des petits. Elle a gardé toute la famille. Elle a distribué les petits à des amis quand ils avaient 3 ou 4. Quand ils avaient 2 mois. Puis elle a gardé la minette. Elle l'a fait castrer. Puis elle l'a gardée. Elle l'a fait stériliser. Puis elle l'a gardée.
Là,
elle me prendrait, mais je suis interdite de séjour en Angleterre.
Alors, en Angleterre aussi?
Oh oui, depuis 62. Non, je ne sais pas depuis 62 si ça compte toujours.
Mm.
Si maintenant je pourrais y aller ou pas.
Et pour quelle raison? Quelle raison ils vous donnent?
Parce que en 62, j'ai pris part à un congrès hitlérien international qui s'est trouvé en Angleterre. Dans lequel Rockwell a parlé. Rockwell et moi aussi, j'ai parlé. Rockwell était le fondateur du parti américain.
D'accord.
Il a été tué, il a été assassiné par un traître, un homme qui s'était infiltré dans le parti et qui l'a tué. Le 25 août, le 25 août 67.
Et il y avait du monde à ce meeting?
Oh, je comprends qu'il y avait du monde. Il y avait 150 personnes peut-être. 150, 200 personnes. Il y avait des Belges, il y avait des Norvégiens, il y avait des Italiens, il y avait des Français, un ou deux naturellement, il n'y en avait pas des masses. Et puis, il y avait même un Américain, mais Rockwell lui-même, quand je lui dis que cet Américain était là, il me dit, méfiez-vous de lui, c'est un, il est contre.
Ah bon?
Méfiez-vous de lui.
Oui, il y a pas mal d'espions, quoi.
Il y a pas mal d'espions. Et justement, moi, j'avais donné mon livre, Golden Furnace. Non, oui, non. The Lightning and the Sun. Je l'avais donné à cet homme-là,
oui.
Croyant qu'il était vrai.
Ah oui.
Il avait une swastika sur lui. J'ai cru que c'était vrai. Ça se passait dans les bois. Asseyez-vous que je vous dis ça. Ça, c'est intéressant. Ça se passait dans les bois, à Crosswells. Crosswells, c'est un endroit, une région, dans le sud-ouest de l'Angleterre. Alors là, nous, dans une forêt, nous étions tous là, dans des tentes. Et puis, je suis arrivé, c'était le 2 août. C'est le 4 août qu'a été fondée l'Union hitlérienne mondiale, la WUNS, World Union of National Socialists, par Rockwell, Colin Jordan, Tyndall, qui est le chef du Parti national anglais maintenant, John Tyndall, puis deux autres. En ma présence, je suis même photographié avec eux. Rockwell ne devait pas entrer en Angleterre. Les journaux anglais disaient « Rockwell n'entrera pas ici ». Alors bon, nous croyons ça. C'était le 2 ou le 3, le 3 août 62. Colin Jordan et Tyndall étaient partis tous les deux. Et puis, ils ont dit qu'ils ne devions pas voiser, que nous devions attendre. Nous avons pavoisé, moi j'avais un grand emploi programmé, l'amener. Et puis, nous attendions. Il y avait un petit sentier qui conduisait de là où nous étions, en bas vers la rivière. Tout d'un coup, nous avons entendu la musique du Horst Wessel. Et puis nous avons vu trois hommes qui sont montés, Tyndall, Jordan, et entre les deux, Rockwell. Il avait pris l'avion des États-Unis en Irlande du Sud. D'Irlande du Sud, il était...